reprendrait bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tom Pouce.
Société nouvelle de robotique. Fondée en 1974, la SNR, Société nouvelle de robotique, est présente sur tous les mondes connus et à toutes les époques pour vous apporter son expertise en matière robotique. Notre domaine de compétence va de la conception et fabrication de robots avec ou sans intelligence artificielle à la récupération de modèles robotiques complexes en symbiose avec leur zone d'opération. Nous sommes également habilités dans la contre-mesure active de haute intensité pour vous aider à gérer les interactions inopinées et poussées que vous pourriez rencontrer avec matériel robotique autonome. Notre réputation dans le domaine du traçage logiciel, spatial et historique n'est plus à faire. Nous sommes particulièrement attentifs aux besoins de nos clients afin de leur éviter une trop grande gêne dans leur parcours entrepreneurial robotique. Notre savoir-faire vous permettra d'anticiper et, si le besoin s'en fait sentir, de pallier à toute déconvenue. Nous serions très flattés de vous compter parmi nos clients et d'entreprendre un partenariat prolifique pour tous.
Comment ça, on n'est pas sûr que ça fonctionne?
Je vous répète simplement ce que m'a dit le créateur du mécanisme.
Vous ne croyez pas que c'est un peu tard pour me le dire?
Ça ne vous arrive jamais d'oublier une info, peut-être?
Bah, un peu quand elle est vitale pour la suite de mon existence. Vous pourrez vite s'arrêter.
Au moins, vous ne mourrez pas seul.
Super. C'est la proximité de la mort qui vous rend philosophe comme ça?
Je veux dire que si le mécanisme foire, nous sommes tous les deux condamnés à une disparition brutale et peu glorieuse.
Pour savoir comment je me suis encore retrouvé dans un plan aussi foireux avec ce bougre d'idiot de revendeur, il serait bon de vous raconter l'histoire de Tom Pouce depuis le début. Bah alors, au début, il y a eu une énorme explosion avec beaucoup de lumière. Bon, ok, je vais commencer de moins loin. La première fois que Tom Pouce était officiellement mentionné, c'était en 2256. C'était dans la station Tycho Brahe sur Ganymède. Pour les deux du fond qui n'ont pas suivi les cours d'astronomie obligatoires depuis la colonisation du système solaire, il s'agit d'un des satellites de Jupiter. Et pour la petite histoire, c'est le plus gros satellite du système solaire. Dans la catégorie des satellites naturels, bien entendu. Donc, la station Tycho Brahe, station internationale scientifique d'exploration. Fondée en 2253 par la réunion de tous les organismes étatiques de la planète, l'organisation Dvorak, elle fut l'objet d'âpres négociations, chacun voulant disposer du maximum de moyens techniques pour le minimum d'investissement. Il aura fallu tout le charisme et le talent du professeur Labarthe pour réunir et faire rester autour de la table de négociation tous les acteurs du projet. Au prix de nombreuses concessions, qui, pour certains, ont dénaturé l'essence même du projet. Comme par exemple, le système d'alimentation de la station qui, au départ, devait se faire par un tokamak, mais que les Européens, arc-boutés sur l'atome, ont réussi à faire remplacer par un réacteur nucléaire de 5e génération, à la fois plus dangereux et au risque plus élevé de contamination de Ganymède. De guerre lasse, le comité d'organisation cédera sous la pression contre un nombre conséquent de voyages depuis la Terre vers la station pris en charge par les Européens. Mais ça, c'est un autre débat. La station se compose d'un module principal qui constitue son nœud central, nœud sur lequel les extensions des diverses agences viendront se fixer, ou du moins essaieront, comme le premier module américain, Eagle, nommé en hommage au premier atterrisseur lunaire de 1969. Les Américains avaient leur conception bien à eux de la conversion entre les mesures impériales et isométriques. Une bataille de petits chefs orgueilleux qui manquera de faire capoter toute l'opération. On dit « too big to fail », trop gros pour que ça échoue. Eh bien là, ça a quand même failli échouer. Seule l'intervention d'un industriel du domaine spatial qui fabriquera un adaptateur sauvera l'affaire. Intervention qui aurait pu paraître providentielle, mais comme bien souvent dans cette affaire, elle n'était pas totalement désintéressée. En effet, en contrepartie de cet adaptateur, l'entreprise New System aura accès au laboratoire Galilée, laboratoire d'expérimentation de haute technologie qui normalement était réservé aux acteurs institutionnels. Laboratoire dont sortira l'Eslapium, métal miraculeux qui fera la richesse colossale de New System. Eslapium dont je vous reparlerai plus tard. 2253 verra donc la mise en place chaotique et le début un poil poussif de la station qui parviendra à prendre son rythme de croisière un an plus tard. Son équipage est composé de 14 personnes, les Gani, comme on les surnomme, sous la coupe du professeur Simplon. 4 chercheurs et 10 techniciens. Nous voilà donc en 2256, le 13 mars. Extrait du journal de bord du professeur Lockhart.
Le processus d'extraction de la glace du site Bucéphale, bien qu'en phase d'expérimentation, est prometteur. Le principe semble acquis, et si tout se passe bien, nous pourrons appliquer le process aux autres futurs sites. Fin du journal de bord du 13 mars, professeur Lockhart, il y a juste un truc, un détail insignifiant, hein, mais j'aimerais quand même le reporter. Ce matin, j'ai trouvé sur une étape de réfectoire un objet non répertorié. Il se présente sous la forme d'une petite sphère reposant sur 3 jambes, si on peut le nommer ainsi, sphère surmontée d'un petit cylindre désaxé, un peu à l'image de l'abdomen d'une araignée. Sur ce qu'on peut nommer l'avant de l'objet, on note une excroissance cylindrique à l'extrémité rougeoyante, pas forcément de la peinture, plutôt une lumière. Je suppose que des collègues farceurs ont déposé ceci à mon attention. Ils savent très bien que je suis toujours le premier à arriver au réfectoire le matin. Au-delà du caractère puéril de la démarche, qui me vécu de certains de mes collègues, je trouve inadmissible que ce genre d'objet ait pris place dans un chargement depuis la Terre, quand on connaît le tarif exorbitant que coûte chaque gramme envoyé ici. J'ai déposé ledit objet dans la poubelle, c'est le place qu'il mérite. Professeur Lockhart, terminé.
Journal de bord du professeur Lockhart du 15 mars.
La bêtise de certains de mes collègues n'a plus de limite. Un ou plusieurs d'entre eux ont repêché l'objet que j'avais jeté à la poubelle il y a 2 jours. Je ne sais pas de qui il s'agit, même si j'ai des doutes. N'est-ce pas, technicien Delfroy ? Cette fois, j'ai mis l'objet au compacteur, plus de risque de le revoir. La mentalité de certains de mes confrères me désole. Fin du journal de bord du 15 mars, professeur Lockhart, terminé.
Extrait du journal de bord du professeur Lockhart du 16 mars.
Ça commence à bien faire. J'ai trouvé un nouvel objet identique au premier au même endroit ce matin. La gabegie doit cesser. Tout ce gaspillage de poids et de place dans les chargements du matériel. Je veux bien croire que les conditions de travail sont dures ici, mais ça n'excuse pas tout. J'ai convoqué une réunion de l'ensemble de l'équipe pour mettre les points sur les i.
La réunion fut houleuse. Mais personne ne voit la manœuvre, pas même Delfroy, qui malgré son sens de l'humour un peu douteux, savait quand même terminer une blague. Après enquête, Delfroy fut innocenté. Afin de calmer le professeur Lockhart, il fut décidé de placer l'objet dans un placard fermé par un code que seul ce dernier connaîtrait. Le problème serait donc résolu. Sauf que le 18 mars, l'équipe fut réveillée par les vociférations du professeur Lockhart. Les autres membres accoururent vers le réfectoire pour constater que l'objet trônait placidement sur la table centrale. Ce coup-ci, le docteur dut ceinturer le professeur pour éviter qu'il fracasse l'objet à coups de marteau. L'affaire commençait à prendre un tournant moins comique. Une nouvelle réunion, sans Lockhart, permit d'étudier les éléments de manière calme et professionnelle. Il fut décidé de déposer l'objet, que l'équipe avait baptisé « Tom Pouce », dans le casier sécurisé à bord du module d'exploration. Ce casier est enfermé par 2 clés, attribuées au hasard. Le risque de le voir être ouvert par d'éventuels plaisantins de mèche serait quasiment nul. Extrait du journal du professeur Simplon, directeur de Tycho Brahe, le 20 mars.
Tom Pouce a été retrouvé sur la table centrale du réfectoire. D'un commun accord, nous avons décidé de décaler l'heure de passage du professeur Lockhart au réfectoire. Ça a eu au moins le bénéfice d'avoir le temps de cacher Tom Pouce avant son arrivée et d'amoindrir un peu le choc. L'ambiance commence à se faire ressentir. Les travaux ralentissent et un climat de suspicion se développe au sein de l'équipe. Nous nous sommes résolus à contacter l'Inter pour les mettre au courant et les informer de notre initiative pour nous débarrasser de manière définitive de Tom Pouce. Fin de journal du bord du 20 mars, professeur Simplon, terminé.
Sur Terre, la surprise fit rapidement place à l'incrédulité. Personne ne croyait cette histoire et commençait à croire que l'éloignement avait des conséquences non envisagées jusqu'à présent. Le bilan psychologique de l'équipe fait depuis la Terre ne révéla aucun signe de démence. Juste de la fatigue et une certaine nervosité. Logique. Après des protestations de principe, la Terre aurait aimé que l'on étudie Tom Pouce selon une démarche scientifique somme toute évidente. Il fut décidé de suivre le plan de l'équipe de Ganymède, afin surtout de ne pas les accabler. La vérité scientifique peut parfois souffrir de la réalité du terrain. Et aussi les soulager de l'ambiance qui commençait sérieusement à se dégrader. Le fameux plan était pour le moins expéditif, mais au point où ils en étaient. Dans le projet d'exploration de Ganymède, il y a eu un forage, un costaud forage, le fameux forage bucéphale, d'un diamètre modeste de 50 cm, mais d'une longueur de 40 km. Un forage quasi rectiligne et dont les parois sont parfaitement lisses car en majorité de glace. L'idée est donc de laisser Tom Pouce tomber au fond du forage désormais inutile. Et même si le risque de le voir grimper aux parois est faible, un bloc de glace de 40 tonnes sera lâché sur Tom Pouce. L'idée étant de tailler un bloc de façon à ce qu'il s'ajuste parfaitement avec le forage. Ainsi, le bloc glissera lentement jusqu'au fond du trou et formera un bouchon étanche qui ne laissera rien passer. Si jamais la masse du bloc n'a pas écrasé Tom Pouce. Le 21 mars, l'opération Alice, vous noterez l'humour un poil pinçant du choix du nom, est lancée. Un membre tiré au sort est chargé de laisser tomber Tom Pouce équipé d'un traceur. Une fois Tom Pouce arrivé en bas du forage, le traceur faisant foi, le bloc est présenté au-dessus du trou et lâché lui aussi. Du fait du frottement avec la paroi, le bloc mettra 3 jours pour descendre. Une fois arrivé à destination, le bloc écrasera tout ce qui pourra se trouver sous lui. Matériel de forage, traceur et Tom Pouce. Le matin du 25 mars au réveil, l'équipe de Ganymède se rendit dans le réfectoire avec une pointe d'appréhension. Mais un énorme soupir de soulagement les libéra. De Tom Pouce, point de trace. Le soir même, on accorda au personnel une dose d'alcool pour « fêter » entre guillemets, la résolution de l'affaire Tom Pouce. Dans les jours qui suivirent, une légère inquiétude se fit sentir à l'heure du lever. Inquiétude qui diminua au fur et à mesure que les jours passaient et que les nouvelles au sujet de la santé du professeur Lockhart étaient bonnes. Au bout d'un mois, la routine reprit sa place et le professeur Lockhart redevint le plus matinal de l'équipe. Le cri d'horreur qui cueillit l'équipe le 25 avril au petit matin ne laissa aucun doute quant à son origine. Il fallut pas moins de 4 membres des Gani pour maîtriser un professeur Lockhart fou furieux qui s'était saisi d'une torche plasma et qui menaçait de brûler l'entièreté du réfectoire. La consternation rayait tant quant au statut du pauvre professeur que par la présence de Tom Pouce, qui semblait narguer tout le monde par son immobilité absolue. L'équipe sur Terre accorda un jour de congé aux Gani, le temps de statuer sur la position à adopter face à ce causeur de troubles. Le professeur Lockhart fut l'infortuné premier passager du vaisseau Mayflower pour son voyage inaugural. Le Mayflower étant le vaisseau de transport de personnel depuis Ganymède en direction de la Terre. Étant seulement à la moitié de la mission, Lockhart fut le seul membre à retourner précocement sur Terre, les autres membres n'ayant pas émis le souhait de partir. Pour le destin de Tom Pouce, l'affaire fut moins simple. Tout d'abord, pour ne pas bouleverser encore plus le professeur Lockhart, il fut décidé de ne pas les faire voyager ensemble. Précaution ô combien humaine, mais coûteuse techniquement et financièrement. Il faudra d'abord affréter un vaisseau pour remplacer le Mayflower, et vite, sinon les Ganis vont se retrouver coincés. Ensuite, il faut envoyer un autre vaisseau pour ramener Tom Pouce. Le temps de préparer le Mayflower 2, le vaisseau de Tom Pouce fut prêt assez tôt pour qu'on en puisse organiser un lancement conjoint. Il n'y a pas de petites économies. Le chargement double fut le bienvenu sur Ganymède. C'est le moins que l'on puisse dire. Pour la petite histoire, il arriva le 25 décembre. Mais pendant tout ce temps, qu'est-il advenu de Tom Pouce ? Il n'a pas bougé d'un poil, trônant fièrement sur la table centrale du réfectoire. À titre d'anecdote, il est logiquement nécessaire de faire la poussière dans toute la station, y compris le réfectoire. Tom Pouce n'a jamais été recouvert du moindre grain de poussière, alors que la table où il se trouve, oui. Ce sera bien la seule remarque faite à son sujet, les Ganis refusant de s'intéresser à Tom Pouce. Par superstition, peut-être. Mais allez-vous me dire comment ils vont ramener Tom Pouce sur Terre ? Vous vous souvenez de l'entreprise New System qui avait résolu le problème de raccord entre les modules. Elle avait inventé sur Ganymède l'eslapium, le métal le plus résistant au monde, ou plus exactement du système solaire. Il a une particularité. Soumis à une fréquence bien précise, sa forme moléculaire évolue pour en faire un matériau totalement homogène. Ce qui fait qu'une boîte en deux parties, exposée à la fameuse vibration, devient une coque faite d'un seul morceau. Comme si la boîte avait toujours été un bloc creux, dès sa création, et jamais ouvert. À l'image d'une géode créée à la faveur d'une éruption volcanique et renfermant une bulle d'air. Les tests sur Terre ont été plus que concluants. La boîte en eslapium résiste à tout ce qui pourrait se présenter lors du voyage entre Ganymède et la Terre. Radiation, choc, chaleur, accélération soudaine, froid absolu. Le process était le suivant. Avec la boîte en eslapium non modifiée, on envoyait un fréquenceur pour renfermer la boîte. Fréquenceur qui restera sur Ganymède, histoire qu'il n'y ait aucun doute sur une possible modification pendant le voyage vers la Terre. Une fois arrivé sur Terre, un autre fréquenceur ouvrirait la boîte. Précaution ultime, l'eslapium garde en mémoire le nombre de modifications. Comme ça, aucun risque de truquer la procédure. New System ne fit pas tout ça pour la gloire. Enfin, c'était évident que tout ça servirait l'image de l'entreprise et de l'eslapium. Elle mit donc les petits plats dans les grands, campagne de communication, site internet où l'on pourrait voir la progression du vaisseau avec une caméra embarquée pour que tout à chacun puisse voir la boîte bien rangée dans le vaisseau. Il y eut même une émission spéciale en direct à partir du moment de l'atterrissage jusqu'à l'ouverture de la boîte. Après vérification, il fut admis que la boîte n'avait pas été modifiée lors du voyage. Et le grand patron de New System de fanfaronner devant la caméra. Il avait sorti son plus beau texte sur la grandeur de son entreprise, de la qualité de l'eslapium, les blablabla. Le timing était parfait, avec une mise en scène digne d'un grand concert. Éclairage, musique d'ambiance.
Il est grand temps d'ouvrir la boîte et ainsi de prouver la fiabilité de l'eslapium créé sur Ganymède par les savants de New System. Nous avons de grands espoirs dans ce nouveau matériau qui révolutionnera l'exploration du nouveau monde et qui permettra à l'homme de conquérir de nouveaux territoires et ainsi faire prospérer le genre humain. Ouverture dans 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, j'ai l'indicible honneur de vous présenter le fameux Tom Pouce.
Le moment qui suivit l'ouverture de la boîte fut qualifié de, je cite, le plus silencieux jamais enregistré. Vous noterez le contresens de l'assertion. Le président du New System chancela et tenta de s'agripper à la table où se trouvait la boîte, vide. Mais il la loupa de peu et s'effondra sur la moquette épaisse qui ornait le plateau de la cérémonie. Dans son malheur, il n'assista pas à la chute vertigineuse en bourse de la cote de son entreprise. Mais il était réveillé quand elle fut liquidée. Et Tom Pouce dans tout ça. il est bien évidemment réapparu sur la table centrale du réfectoire. Officiellement, personne ne sait précisément à quel moment il est apparu, hormis qu'il était là au réveil de l'équipage. Officieusement, un des gagnis le vit réapparaître au moment même où on ouvrait la fameuse boîte sur Terre. Mais aucune confirmation ne sera faite par les autorités. La présence d'un des membres de l'équipe dans le réfectoire serait surtout due à des paris lancés sur la réapparition de Tom Pouce dans la station. Un des techniciens est reparti très riche de Tiki O'Brien. Et ce n'est pas Delfroy. L'histoire aurait pu rester un de ces innombrables mystères de l'univers, mais un des adjoints de Labarthe, le grand régisseur de cette mission, en a décidé autrement, et usant de ses contacts, va monter une expédition pour amener définitivement Tom Pouce sur Terre. Pour cette tentative, on optera pour un champ de force. Solution qui semblera être efficace. Malgré les protestations des gagnis, l'équipe de Barbouze va débarquer dans la station d'une manière un poil expéditive, voire même brutale, selon certains témoignages. Leur mode opératoire était très simple. Entrer dans la station, se diriger tout droit vers le réfectoire, placer Tom Pouce dans un champ de force, activer le champ de force et repartir aussi sec. Ils sont restés dans la station environ 15 minutes. Durée qui aura suffi à se mettre à dos 13 personnes d'une nature plutôt pacifique et qui pour certains se découvriront des dons de lanceurs de toutes sortes d'objets contondants. Mais qu'est-ce qui l'aura le plus énervé ? L'intrusion ou le fait de voir partir Tom Pouce ? Car il le sentait bien ce coup-ci, il risquait de ne pas revenir. Il faisait maintenant partie de l'équipe, il était devenu leur mascotte. Une formidable démonstration de joie salua le retour de Tom Pouce quelques jours plus tard sur la table. Joie de courte durée. Quelques heures après son retour, les gagnis eurent le fin mot de l'histoire. Si le principe du champ de force semblait sur le papier totalement efficace, dans la réalité, il en était tout autrement. En tout cas sur un point. L'alimentation du champ de force. Et si on en croit la boîte noire du vaisseau des Barbouzes, l'alimentation a varié, quelques secondes, mais ça a suffi à Tom Pouce pour se faire la malle. Toujours selon la boîte noire, il a fait exploser la cage du champ de force et le vaisseau avec. Aucun survivant. Dès lors, l'attitude des gagnis commença à changer, subtilement mais sûrement. Autant jusque-là, Tom Pouce paraissait débonnaire, gentil, voire inoffensif. Même la dépression du professeur Lockhart n'avait réussi à entamer le capital sympathie du robot. Mais là, fussent-ils des mercenaires, il y avait désormais 8 corps flottant dans l'espace à côté de Jupiter. Est-ce que ce drame a précipité les choses ? Peut-être. Toujours est-il que la mission sur Ganymède se termina 2 années plus tôt, sans qu'une nouvelle soit programmée. Autant dire que l'ambiance au moment du départ n'était pas fofolle. Le hasard voulut que le technicien Delfroy soit le dernier à quitter la station et fermer le sas derrière lui. Sous les protestations du reste de l'équipage, car il prit un temps considérable à faire une dernière tournée de vérification au point de leur faire quasiment rater leur créneau de départ. Ainsi finit la mission Ganymède 1 dans la morosité et entourée de nombreuses questions. Me voilà donc devant une cage à champ de force bricolée par je ne sais qui et accompagnée de ce revendeur à la noix, dans la maison d'un modeste retraité décédé il y a peu. Tom Pouce est calme, impassible, comme toujours, au centre de la cage que je vais activer. Vous allez vous demander comment j'ai pu récupérer Tom Pouce. En allant sur Ganymède évidemment. Non. Sa valeur est énorme, mais le coût du voyage est, lui, astronomique pour le modeste marchand que je suis. Figurez-vous que le revendeur qui est à côté de moi a un très bon réseau de renseignements. Qu'un de ses indiques a aperçu Tom Pouce un jour chez un modeste retraité qui aurait travaillé au sein de l'organisation Dvorak qui a géré les différentes expéditions d'exploration du système solaire. le malheureux retraité qui passera l'arme à gauche quelques jours plus tard. A noter que Tom Pouce trône sur la table de chevet du défunt et que donc il n'y a pas forcément besoin d'une cage. Mais bon, principe de précaution. On ne sait jamais, des fois qu'il décide de partir autre part sans prévenir.
Bon, on l'allume cette cage ?
Bah ok, allons-y.
Vous attendez quoi ? Allez-y !
Rien à voir, hein, mais il s'appelait comment le vieil homme ici ?
Oh, quelle importance !
Mes clients aiment bien que je leur raconte une histoire.
Oh, c'est ah oui, Delfroy.
Ok, bon, attention, j'allume.